Notre Dieu et notre Père, très saint, céleste roi, divin berger, nous t'exaltons, Seigneur, toi qui es grand et qui n'as pas de rival, qui n'as pas de semblable. Tu sièges sur le trône d'âge en âge, tu conduis l'histoire du monde et l'histoire des hommes. Et nous te bénissons, nous te célébrons, nous sommes reconnaissants que tu sois notre Dieu. Ce matin, Seigneur, maintenant nous demandons ta grâce. Nous prions que par ton esprit, tu éclaires nos cœurs, que tu nous parles, que tu transformes nos vies par le texte que nous allons méditer maintenant. Seigneur, que tu agisses avec puissance en nous et que, partie d'ici, nous soyons des personnes différentes, conscientes de ta grâce, conscientes de ta gloire, conscientes de ta souveraineté et contentes de notre dépendance à toi. Que gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Alors, c'est le moment maintenant où on écoute la prédication. Si vous avez des Bibles, merci de les ouvrir en Jonas, chapitre 1, s'il vous plaît. Jonas, chapitre 1. Et donc, on va commencer la série de prédications qu'on a annoncées. Alors, pendant que vous ouvrez les Bibles, alors, ce n'est pas un contrôle, hein, mais je vais juste voir le pourcentage. Ça va m'aider dans ce que je vais dire. Il était question de lire tout Jonas 3 fois dans la semaine. Alors, qui a lu Jonas 3 fois, tout le livre? Oh, intéressant. Excellent. OK. Qui a lu 2 fois? OK. Qui a lu 1 fois, tout le livre? Super. Génial. Excellent. Eh bien, je suis content. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Vous allez voir, ça sera certainement plus facile et plus fluide. Quand je vais parler des choses, si je dis quelque chose qui n'est pas vraiment dans Jonas, vous allez me dire, hey, non. Niet, c'est pas ça qui est écrit, ok? Et vous verrez que les vérités qui vont ressortir seront beaucoup plus naturelles à comprendre, non seulement à comprendre, et je prie à vivre aussi. Jonas chapitre 1. Généralement, frères et sœurs, lorsqu'on parle de Jonas, on fait une grande fixation sur Jonas et le poisson. Mais en réalité, vous avez dû voir que le focus, le vrai focus, les vrais points centraux du livre ne sont pas juste cette histoire drôle du poisson qui avale Jonas. Mais en fait, il y a deux points forts qu'il faudra garder tout au long, pendant que vous lirez ceux qui n'ont pas encore lu, mais aussi dans les groupes de maison. Et après, deux points forts. Alors, j'avance, ils sont certainement... Bon, ils vont disparaître, mais c'est pas grave. Deux points forts. Premièrement, la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a la maîtrise de tout. On l'a dit tout à l'heure. On va le voir là dans le livre de Jonas. Et le deuxième point clé essentiel à comprendre dans le livre de Jonas, c'est que le salut vient de l'Éternel. Et je pense même que le salut vient de l'Éternel, c'est certainement le point culminant de la lettre du livre de Jonas. Et à côté de ça, il y a toute la souveraineté de Dieu qui est visible. Plusieurs versets appuient ces deux thèmes principaux-là et je pourrais vous les donner. Je les enverrai dans le groupe de l'église, ok? Parce que je les avais mis, mais je ne les trouve plus. Alors, pour l'instant, je propose de lire Jonas chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. » car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent tempétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils se jetèrent dans la mer, les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Qui fait ça? Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se rendirent l'un à l'autre. Et ils se dirent l'un à l'autre. Venez et tirons au sort pour voir, pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? On dit, d'accord. Si tu crains le Dieu qui a fait, pourquoi tu désobéis? Et lui dire, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Et lui dire, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. On l'a lu tout à l'heure. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Alors, verset 17, dans certaines traductions, ou alors chapitre 2, verset 1, dans d'autres traductions, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Voilà le texte que nous avons. On va le voir en 3 points.
Ok.
Et le premier point, c'est la mission. C'est dans les versets 1 à 2. J'ai fait une petite erreur, c'est pas 1 à 3. Il y a la mission, ok? Dieu qui envoie Jonas en mission. Le deuxième point, il y a la démission. Jonas démissionne de son rôle. On voit ça dans les versets 4 à 14. Et il y a un troisième point, la rémission. Ok? Si l'histoire de Jonas fait rire, vous voyez que les 3 points là, ça fait MDR. Ok? On est un peu mort de rire quand on voit cette histoire-là. C'est la rémission. On voit ça dans les versets 15. Dans les versets 15 jusqu'au verset 17. Premièrement, c'est les textes dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, le Dieu souverain et le deuxième grand point, le salut qui vient de l'Éternel. Alors, premier point, la mission, dans les versets 1 à 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, parce que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. On va parler de la mission, mais avant, il faut parler un petit peu du missionnaire.
Ok?
On voit ça dans le verset 1. Jonas, c'est le fils d'Amittai. C'est un prophète, c'est-à-dire qu'il parle de la part de l'Éternel. Un prophète de l'Ancien Testament, et il a parlé dans les années 760 avant Jésus-Christ. Et il était un prophète des 10 tribus d'Israël. Vous savez qu'à ce moment-là, Israël est divisé en deux. Il y a Juda et Israël au nord, le nord et le sud. Pardon. Et maintenant, quel est le lieu de la mission? La parole de l'Éternel envoie Jonas en mission à Ninive. Une première remarque à faire ici, frères et sœurs, c'est déjà que Ninive est une ville païenne. Généralement, les prophètes étaient envoyés, pour parler à Israël, aux enfants d'Israël. Mais ici, Dieu envoie Jonas chez des païens. Ça confirme en réalité le grand plan, le grand projet de Dieu, la grande promesse que Dieu a fait à Abraham. Il lui a dit quoi Genèse 12, « Je te bénirai et toutes les nations seront bénies en toi. » Vous voyez, Jonas est prophète envoyé en mission à l'international. Il doit aller porter le message de Dieu à l'international. Le lieu de la mission a encore quelque chose d'insolite. Accrochez-vous, ok? Ninive, c'est la capitale de l'Assyrie. L'Assyrie, c'est une des grandes puissances qui a existé dans l'humanité. Et en fait, les Assyriens, c'était les ennemis d'Israël. Ils faisaient la guerre. C'est un peuple qui est cruel. cruels sur tous les plans. Ils adorent, ce sont des païens, je l'ai dit tout à l'heure, ils adorent des divinités sanguinaires qui demandent des sacrifices humains. C'est le peuple, c'était un peuple paresseux. Leur passe-temps, c'était la guerre. Je veux dire que si votre passe-temps favori, c'est de faire jouer aux échecs, eux, leur passe-temps, c'était faire la guerre. Et quand ils faisaient la guerre, alors, je vois qu'il y a des enfants. Alors, les enfants, fermez les oreilles. Quand ils faisaient la guerre à un peuple et qu'ils avaient vaincu ce peuple-là, tranchaient la tête et ils faisaient des... Et c'est ma fille qui a réagi en premier. Et ils faisaient des montagnes avec cette chose-là qu'ils avaient... Vous voyez, ça faisait peur aux nations. Quand les Assyriens devaient faire la guerre à un peuple, le roi de ce peuple-là déclarait de la défaite tout de suite. Il disait, ok, pas de problème, venez vous servir. Leur roi, le roi de ces Ninivites, c'était à la fois, ils étaient à la fois roi et prêtre. C'est-à-dire qu'ils adoraient leur divinité et n'acceptaient aucune autre religion. Et c'est dans cette ville-là que Dieu demande à Jonas de partir en mission. Aller en mission dans ce pays-là, pour Jonas, aller là-bas, parce que Assyriens et Israélites étaient ennemis, ok? Donc, pour que Jonas parte en mission dans ce pays, c'est comme demander à un juif des années 40 d'aller en mission en Allemagne nazie. C'est comme demander, par exemple, à un Saoudien musulman qui se serait converti au christianisme de retourner en Arabie Saoudite et de prêcher l'évangile ouvertement. C'est comme demander à une personne là qui est convertie à Jésus de retourner dans ce pays qui n'accepte pas Jésus, qui n'accepte pas de la foi chrétienne, d'y retourner pour prêcher l'évangile. Voilà pour ce qui est du lieu de la mission. Mais quel est le contenu de la mission? Quel est le message de Dieu pour les Ninivites? Et ça, c'est le verset, le point 3, la raison de la mission. Dans le verset 2, on lit quoi? On dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Les agissements des Ninivites étaient connus de Dieu. Frères et sœurs, c'est rassurant de savoir ça. Je veux dire qu'une chose est sûre et absolument certaine, c'est que Dieu n'est pas insensible à la méchanceté des hommes. Dieu est amour, oui, mais il n'est pas insensible à la méchanceté qu'on peut faire subir aux conjoints dans le foyer, aux collègues, au boulot, aux personnes de la famille. Et inversement, il n'est pas insensible. Si vous-même, vous êtes... victime de ces souffrances-là. Je veux dire, on peut vivre la souffrance et la méchanceté des autres avec la pleine confiance que Dieu n'est pas insensible à cela. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Genèse chapitre 6, au verset 5, il est dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que les pensées de leur cœur se portaient chaque jour vers le mal. Et comment Dieu avait agi? Il a envoyé le déluge. Parce qu'il ne supporte pas le mal. Et je veux dire ici ce matin, si vous souffrez parce que des gens vous persécutent, parce que des gens vous font du mal, soyez assurés, un jour Dieu fera justice. Et de la même façon, frères et sœurs, si quelqu'un souffre quelque part, parce que c'est l'un d'entre nous qui lui fait du mal, là encore, Dieu fera justice. Arrêtons-nous quelques instants sur ce premier point qui me semble important, la mission de Dieu. Et vous l'avez certainement compris, Dieu envoie Jonas en mission parce que la méchanceté de ce peuple est montée jusqu'à lui. John Piper, un prédicateur américain que j'écoute de temps en temps, il dit que la mission existe, il dit que le rôle de l'Église, ce n'est pas la mission, ce n'est pas de partir en mission, c'est l'adoration. L'Église existe pour adorer Dieu. Et si à un moment donné, on doit aller en mission, c'est pourquoi? C'est parce que l'adoration n'existe plus. Si tout Shell était réuni ce matin à adorer Dieu, est-ce qu'on aurait besoin d'être missionnaire dans la ville de Shell? Absolument pas. Et donc Dieu envoie Jonas en mission parce que les Ninivites n'adoraient. Ils adoraient certainement leur Dieu, on l'a dit tout à l'heure, c'était les païens, mais ils n'adoraient pas le vrai Dieu, le Dieu de la Bible. Et nous aussi, très souvent, on est un peu frileux quand il est question de dire, de porter le bon message de l'Évangile, de dire la bonne nouvelle à notre entourage. Souvent, pour plusieurs raisons, alors j'en parlerai tout à l'heure, mais en fait, dans ce texte-ci, la mission semble révéler deux caractères, au moins urgent. Urgent, parce que chaque personne qui n'est pas convertie, qui n'a pas mis sa confiance en Jésus, vit sous la menace du jugement, du juste et sans jugement de Dieu. C'est cela que Jonas doit aller dire au peuple. Si vous avez lu, en tout cas, puisque vous avez lu, vous savez, dans Jonas chapitre 3, vous savez ce qu'il va leur dire finalement. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Et ce matin, est-ce que je peux dire encore 40 jours et le pécheur sera détruit? Je ne sais pas. Peut-être 40 jours, peut-être plus tard, peut-être aujourd'hui, peut-être après. Mais le souhait de Dieu, c'est que le pécheur ne soit pas détruit, qu'il reconnaisse son péché, qu'il change de voie et qu'il se tourne vers le Seigneur. Maintenant, il y a la démission. On voit ça dans les versets 3 à 14. Voilà notre ami Jonas qui est envoyé en mission, mais surprise. Jonas ne veut pas aller en mission. Il veut démissionner de son rôle de prophète. En tant que prophète, son rôle, c'était de parler de la part de Dieu. Et là, il démissionne. Il quitte son rôle. Il ne veut plus parler de la part de Dieu. Et il a sa stratégie, c'est la fuite. Pour ne pas aller en mission, il décide de fuir. De fuir d'où? Loin de la face de l'Éternel. Vous avez vu? Il y a cette répétition. Fuir loin de la face de l'Éternel. Jonas se lève. Alors, je reviens ici. Jonas se lève. Il parcourt 100 kilomètres pour arriver à Jaffa, c'est ici. Et Dieu lui dit d'aller à Ninive, à l'est. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend le bateau pour aller en sens opposé, à l'ouest. Jonas doit aller en mission à l'est et il va à l'ouest. J'ai qualifié, je pense que cette stratégie est puérile. Parce que peut-être que, en réalité, qui peut vraiment s'enfuir loin de la face de l'Éternel? Qui peut fuir loin de la face de l'Éternel? Si on veut fuir loin de la face du maire de Shell, on part en Corse. Ok? Si on veut fuir de la portée du président français, on va au Cameroun. Ok? Et je vous accueille avec plaisir, avec joie. Mais, frères et sœurs, qui peut vraiment fuir loin de la face de Dieu? Jonas connaissait certainement Dieu. Il connaissait certainement le psaume 139 que j'affiche là. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la nuit. Frères et sœurs, rien ne se dérobe au regard de Dieu. Absolument impossible de fuir loin de Dieu. Peut-être qu'en écoutant ceci, vous comprenez que c'est peine perdue de fuir l'appel de Dieu. Et vous vous demandez pourquoi Jonas n'est pas juste allé faire la mission à laquelle Dieu l'a appelé. Comme les mariniers ont demandé. Lorsque Jonas dit, je suis hébreu et je sers, je crains l'Éternel. Les mariniers disent, et pourquoi tu as fait ça? En gros, est-ce que tu es stupide? Est-ce que tu as un problème? Pourquoi le Dieu de l'univers parle et tu n'obéis pas? Je l'ai déjà dit ici plusieurs fois. Vous savez, lorsqu'on a prêché sur les 10 commandements et qu'on a parlé, on a dit que tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Souvent, des gens s'amusent à dire « Dieu m'a dit de te dire que ». Dieu m'a dit que. Et quand? Et je l'ai dit ici, je l'ai dit. Si quelqu'un vient me voir et me dit « Dieu m'a dit que je dois faire ceci », frères et sœurs, alors moi, personnellement, ma réponse à chaque fois, c'est « Si Dieu t'a dit, si tu es convaincu que Dieu t'a dit, alors fais. Qui suis-je moi pour m'opposer à ce que Dieu dit ?» Et je dis ça pour qu'on fasse attention à ce qu'on dit que Dieu a dit. La parole de Dieu. Rien ne se dérobe à lui. Pourquoi Jonas fuit alors que Dieu a parlé? La réponse se trouve au chapitre 4. Donc, je vous laisse lire le chapitre 4. Si vous trouvez la réponse, envoyez-moi un petit texto. Pourquoi Jonas fuit? Pourquoi il refuse de partir en mission? Si vous trouvez, envoyez-moi un petit texto. Sinon, Évrard le dira certainement quand il prêchera sur Jonas, sur le chapitre 4. Mais pour l'instant, pensons à nous et à nos propres démissions, qui sont souvent si nombreuses. Qu'est-ce qui nous retient d'être des témoins de l'Éternel lorsque Dieu nous propose, il nous envoie comme des témoins dans le monde, dans nos familles, au travail, dans notre entourage? Qu'est-ce qui nous retient souvent? Je peux même poser la question autrement. Quelle est la dernière fois que vous avez été témoin de l'Évangile? Quelle est la dernière fois que vous avez expliqué à ceux qui ne connaissent pas encore Dieu qu'il y a vraiment un sauveur qui peut les sauver? C'était quand la dernière fois? Souvent, on a plusieurs raisons pour ne pas le faire, pour ne pas dire la bonne nouvelle. On dit, ah, il a déjà sa religion. C'est la plus grande raison pour lui parler de Jésus. S'il a déjà, s'il a une autre religion, s'il croit en autre chose que le camp Christ. Des fois, on dit, je ne le connais pas assez. Ah, ça aussi, c'est ça le problème. Jonas ne connaissait pas personnellement ces Ninivites, mais Dieu les connaissait personnellement. Il connaissait leur péché, il connaissait leur méchanceté. Et souvent, on se dit, ah, lui-là que je vois, son cas est lourd. Frères et sœurs, si vous pensez à vous-même, comment vous en êtes à être sauvés, vous en êtes arrivés à être sauvés, personne n'aurait parié une pièce sur vous. Peut-être parce que vous aviez une situation de vie compliquée. Et Dieu a parié tout ce qu'il y avait au ciel, son Fils, pour vous, pour nous. Si Dieu est souverain, alors frères et sœurs, parlons de la bonne nouvelle à tout le monde. Parce que Dieu est capable de transformer le cœur même le plus dur. Dieu va poursuivre Jonas et j'aimerais déjà dire ici que la suite peut être un peu inconfortable. Je veux dire que de savoir exactement ce que Dieu veut et de faire le contraire, c'est dangereux. C'est même stupide. Permettez-moi l'expression. Souvent, souvenez-vous que les thèmes principaux de ce livre, c'est la souveraineté de Dieu et c'est le salut qui vient de l'Éternel. Le salut qui vient de l'Éternel, c'est dans Jonas 2, verset 10. Voyons donc maintenant comment Dieu va exercer la puissance de sa souveraineté et il va manifester son salut dans la poursuite de Jonas. Il va le faire par trois moyens. Premièrement, la tempête, dans les versets 4 à 6. Vous savez que si vous me demandez à moi quand est-ce qu'il faut aller en mer, moi je ne saurais pas. Mais si vous demandez à des navigateurs professionnels, eux, ils savent les périodes où il faut aller en mer et où il ne faut pas aller en mer. Okay? Et dans ce texte-ci, on voit que un capitaine organise un voyage pour aller à Tarsis, c'est-à-dire que la période était certainement propice pour aller en mer. Okay? Mais Dieu envoie une grande tempête. On voit ça au verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Ce n'est pas juste un caprice de la nature. Remarquez, à chaque fois, on dit, ça commence par, mais l'Éternel. C'est à chaque fois l'Éternel qui fait. C'est l'Éternel qui agit souverainement, avec puissance. C'est Dieu qui envoie la tempête. Une tempête suffisamment forte pour inquiéter tout le monde dans le navire. Et même les navigateurs professionnels sont surpris et pris de panique. C'est certainement une des premières choses qui va interpeller ces professionnels de la navigation. Parfois, Dieu veut gagner notre attention par les tempêtes que nous traversons. Il règne sur les circonstances, même les plus difficiles. La pluie et le beau temps. Dieu règne là-dessus. Les difficultés sont même parfois pour nous rendre attentifs à notre dépendance à Dieu. Nous pensons pouvoir vivre sans lui et soudainement rien ne va plus. Et nous nous rendons compte qu'en réalité, c'est lui qui est notre vie et que nous n'avons pas de vie en dehors de lui. C.S. Lewis. C.S. Lewis a écrit que Dieu murmure dans nos moments de joie, mais tonne dans nos souffrances. La souffrance est son mégaphone pour réveiller un monde engourdi. Dieu utilise souvent la souffrance et les moments de tempête pour nous réveiller un peu. Et c'est exactement ce qui se passe ici. La tempête va souffler et il y aura deux réactions. Première réaction, les mariniers. Ils sont pris de panique, ils sont pris de peur et chacun va prier son Dieu. Ce sont des idolâtres, eux aussi. Ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Ils prient leur Dieu, leurs idoles, et c'est la réaction presque naturelle chez l'être humain. J'ai lu cette phrase d'un général de la Première Guerre mondiale. Il dit que dans les tranchées, il n'y a pas d'athée. Quand ça tire, quand il y a des missiles qui tombent, on cherche Dieu. Et ces mariniers cherchent Dieu, mais pas au bon endroit. Ils ont prié leur Dieu. Vous avez vu, on a lu dans le psaume 115, mais leur Dieu ne les a pas secourus. Parce qu'ils ont prié un Dieu qui n'existe pas. La deuxième réaction, c'est celle de Jonas. Jonas est imperturbable. La tempête n'est pas suffisante pour qu'il reprenne conscience. Il ne veut pas aller crier contre Ninive de la part de l'Éternel. Il est même prêt à mourir. Vous voyez ce qu'il fait? Il va s'endormir au fond du navire. Il dort. Qui fait ça? Terrible, hein? Et plus encore, non seulement Jonas est prêt à mourir pour lui-même, mais il n'a aucune pitié pour les personnes qui sont dans le bateau. Vous voyez? Regardez jusqu'où la désobéissance peut nous entraîner. Lorsqu'on désobéit, on sait ce que Dieu veut, ce que Dieu demande de faire. Mais juste, on désobéit encore et encore. Et on dégringole encore et encore. Et la deuxième chose avec laquelle Dieu poursuit Jonas après la tempête, c'est le sort. Le sort, on voit ça dans les versets 7 à 9. Dieu va un peu plus loin, il est souverain sur tout. Il a envoyé la tempête et maintenant il va contrôler l'issue du tirage au sort une fois de plus pour attirer l'attention de Jonas. Voici ce qu'on lit dans le verset 7. Ils se dirent l'un à l'autre, « Venez !» Et tirant au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Dieu guide le sort maintenant pour que Jonas soit démasqué. Et les mariniers vont lui dire au verset 8 et 9, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? » La réponse de Jonas est sans appel. Elle est même surprenante. « Je suis hébreu. Je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Voilà la réponse de Jonas. On voit que Jonas, en réalité, il n'a pas renié sa foi, ok? Il dit, je suis hébreu, je crains l'Éternel. Jonas n'a pas renié sa foi. Jonas est quoi? Et maintenant, s'il vous plaît, prêtez attention à ce que je veux dire ici maintenant. Qu'est-ce que Jonas est? Jonas est... Il est ce chrétien qui connaît exactement la volonté de Dieu. Et qui décide de pécher volontairement. Jonas ne renie pas sa foi. Jonas est ce chrétien qui sait que Dieu demande de pardonner comme nous avons été pardonnés en Jésus. Et ce chrétien qui dit, je lui en voudrais quand même. Je lui garde quand même rancune. Jonas est ce chrétien qui connaît exactement quelle est la volonté de Dieu. Et lorsqu'on lui dit à ce chrétien, il faut que tu changes. Ce chrétien qui dit, non, non, je sais, je connais la volonté, je sais ce que Dieu dit. Mais qui ne change pas, qui reste impassible, imperturbable. La réponse de Jonas a certainement mis la puce à l'oreille des mariniers, d'où leur crainte. Ils savent désormais que l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre et de la mer, est à l'œuvre. Les mariniers tremblent, mais Jonas reste insensible. C'est souvent ce qui se passe lorsqu'on s'engage dans la voie du péché. Tout autour de nous peut trembler, peut s'effondrer, mais on s'obstine dans le péché. La troisième chose avec laquelle Dieu poursuit Jonas, ce sont les marins eux-mêmes. Dans les versets 10 à 14. Et c'est un moyen, ce troisième moyen par lequel Dieu poursuit Jonas peut vous sembler banal, mais je vous assure que c'est une chose terrible. Quand vous aurez lu tout Jonas et que vous aurez vu ce qui se passe dans tout le livre, surtout au chapitre 4, la réponse que je vous ai demandée là, hein, pourquoi Jonas ne part pas en mission, quand vous aurez trouvé la réponse à cette question-là, vous comprendrez que ce qui se passe avec ces mariniers est absolument terrible et humiliant pour Jonas. Jonas, le juif pure souche. Jonas, le prophète de l'Éternel, qui est jugé ici. Dieu utilise des marins, pêcheurs, paganistes, pour juger Jonas, le prophète de l'Éternel. Ça vous est déjà arrivé, ça, au travail? Que vous vous engagez dans des voies, donc à critiquer des gens, vous trichez au travail, ou alors vous faites quelque chose qui est complètement pas chrétien, permettez-moi l'expression. Et que ce soit un collègue qui n'est pas du tout chrétien qui vous dise, mais est-ce que c'est vraiment chrétien de faire ça? Moi, ça m'est déjà arrivé. Frères et sœurs, il n'y a pas de moment plus humiliant que ce moment-là. Les marins, qui sont des pêcheurs, vont juger Jonas, le prophète de Dieu. C'est terrible. À la question de savoir ce qu'il faut faire pour que la mer s'apaise, c'est ce qu'on voit au verset 11. Que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Jonas ne dira pas, je suis désolé, faites demi-tour et retournons à Jaffa. Je vais aller en mission, je vais aller faire ce que l'Éternel dit. Il ne se répand pas. Jonas est ce qu'on peut appeler un jusqu'au boutiste. Rien ne l'impressionne. Il ne tremble pas. Il ne s'arrête pas. Hors de question d'aller prêcher la repentance et le pardon des péchés. Il demande la mort. Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Voici, regardez ce que les Ninivites, enfin, ce que ces mariniers vont faire. Jonas sait que la mer tremble à cause de lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va se coucher. Il dit, on n'a qu'à tous mourir. Mais les mariniers, ici, quand on tire au sort, le sort tombe sur Jonas. Et Jonas confirme que la mer est déchaînée. Dieu déchaîne la mer à cause de moi. Regardez ce qu'ils font au verset 13. Ils essaient de le sauver, merci Anne-Marie. Jonas dit, jetez-moi par-dessus bord. Et les mariniers essaient quand même de ramer pour le sauver. Vous voyez là encore comment Dieu utilise ces païens-là pour juger Jonas et pour lui dire, reviens à la raison. Et quand ils ne pourront plus rien faire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prier. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. Et c'est ces marins-là qui font cette belle proclamation. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Notre Dieu fait ce qu'il veut. C'est salvateur et rassurant de reconnaître ça. Je finis rapidement avec ce dernier point, la rémission. En fait, dans cette partie, je ne compte pas en parler aujourd'hui. Je veux juste mettre l'eau à la bouche, ok, pour que vous reveniez dimanche prochain, pour suivre la suite, ok. Je vous l'ai dit en introduction que ce livre n'a pas pour but de raconter l'histoire drôle d'un homme avalé par un grand poisson. L'histoire de Jonas raconte l'étendue du salut de Dieu qui n'est pas propre à un peuple, mais à toutes les nations. Au verset 14, il dit « Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » C'est sur cette note un peu triste que se serait terminée l'histoire de Jonas. Je veux dire que si Dieu n'agit plus, c'est juste Jonas qui est jeté dans l'eau et tout finit. Tout s'arrête. Mais parce que Jonas, parce que ce livre veut nous parler de comment Dieu sauve, Jonas veut nous dire comment Dieu aime sauver. Il nous donne, il nous met l'eau à la bouche avec deux indices. Le premier indice, c'est la rémission des marins. On voit ça dans les versets 15, à 16. Lorsqu'ils jettent Jonas dans l'eau, regardez ce qui se passe. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. La mer va s'apaiser de façon tout aussi miraculeuse qu'elle s'est déchaînée. Et là encore, c'est l'Éternel qui apaise la mer pour sauver la vie de ses mariniers. Le deuxième point, c'est la rémission de Jonas lui-même. Dans le verset 17, ou plutôt dans le chapitre 2, le verset 1, on dit que l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Le poisson envoyé par Dieu, ce n'est pas juste un poisson. Le poisson qui avale Jonas, ce n'est pas juste un poisson qui passait par là. Relisez ce qui est écrit. L'Éternel envoya. À chaque fois, il est question de l'Éternel qui agit souverainement. Frères et sœurs, si Dieu n'envoie pas ce poisson, qu'est-ce qui se passe pour Jonas? Il descend et il meurt. Et lorsque Dieu envoie le poisson qui avale Jonas, il sauve Jonas de la mort. À nouveau, Dieu maîtrise tout. Il contrôle tout. Et ceci pourquoi? Pour le salut de ses enfants. Jonas serait certainement mort sans l'intervention de Dieu. L'Éternel apaise la mer pour sauver les mariniers. L'Éternel envoie le grand poisson pour sauver Jonas. Et l'Éternel, frères et sœurs, a envoyé Jésus qui est mort à la croix pour nous. Qui est resté 3 jours dans le tombeau. Et quand il est ressorti, désormais, nous pouvons nous tourner vers lui pour avoir le salut. Au moins 3 choses qu'on apprend ici. Dieu est souverain sur tout ce qui existe et sur tout ce qui se passe. Le salut est disponible pour tous, même pour les mariniers. C'est-à-dire, c'est paganiste, c'est païen. Si vous êtes là ce matin et que vous n'avez pas encore mis votre confiance en Jésus, entendez que Dieu vous appelle. Entendez que Dieu ne vous juge pas. En tout cas, pas aujourd'hui. Mais ce qu'il veut, c'est que vous vous tourniez vers lui et que vous ayez le salut. Et le troisième point, c'est que Dieu est fidèle dans son appel. Il a appelé Jonas et Jonas ira à Ninive. On le verra dans la suite. Si vous voulez voir la suite, si vous voulez entendre un peu plus de la suite de la rémission, eh bien, venez dimanche prochain. En attendant, on va prendre la scène et j'invite